Bien, nous pouvons reprendre avec une petite annonce, c'est-à-dire qu'il m'a été rappelé que sur le site du collège, il est indiqué que je ne ferai pas de cours le 3 décembre et que ce cours sera rattrapé, si on peut dire, le premier jeudi de janvier, qui est le 7 janvier. Donc, la semaine prochaine, oui, les choses sont comme ordinaires, mais pas la semaine suivante. Et le dernier cours aura donc lieu le 10 et les derniers cours de 2015, les 10 et 17 décembre. Donc on est devant ce document qui a pu être analysé très précisément par un grand spécialiste de la question, Gary Taylor. Et le problème, donc, un titre, une référence à Don Quichotte, un problème pour celui de la date de cette représentation, parce que l'année 1612 et 1613 ont été très particulières pour la cour d'Angleterre, dans la mesure où le 6 novembre 1612 était mort le prince héritier, le prince Henri, ses funérailles ayant lieu un mois plus tard, le 7 décembre 1612, et qu'en 1613, le 14 février, était célébré à Whitehall le mariage entre la fille du roi d'Angleterre, Jacques Ier, Élisabeth, et le prince palatin. Ce qui fait que la saison ordinaire des spectacles a été bouleversée par, en particulier, le premier événement, et ce qui permet de penser que le Cardenio et avec les autres pièces a été représenté entre janvier et février 1613, puisque on sait que le 21 février, le roi quitte Whitehall et la cour. Donc, ça donne une date qui était indécis, mais on peut penser que cette pièce date donc de 1613 dans sa représentation. Évidemment, Shakespeare a pu y penser auparavant s'il est un des deux auteurs du texte. Alors, Cardenio, je le rappelle, sans rentrer dans trop de détails, c'est un personnage qui entre dans l'histoire de Don Quichotte au chapitre 23. On a pris l'habitude de citer le Quichotte à partir des découpages en chapitres modernes. Ce découpage, il faut le savoir, n'a de sens que parce qu'il y a une seconde partie de Don Quichotte en 1615, et que donc on dit première partie, deuxième partie. Mais le texte de 1604, imprimé, 1605, distribué du Quichotte, était divisé en quatre parties, et chacune avait un ordre nouveau de ces chapitres. Donc, restons sur la convention, chapitre 23, et le personnage apparaît dans cette histoire, et apparaît dans l'histoire de la littérature européenne, avec ces lignes qui sont le moment où Don Quichotte, qui s'est retiré dans la Sierra Morena, l'aperçoit. Tandis qu'il marchait, Don Quichotte, avec ses pensées, il vit que sur le sommet d'un monticule qui s'offrait à ses yeux, un homme allait sautant de rocher en rocher, de buisson en buisson, avec une légèreté surprenante. Il lui parut être tout nu, avec une barbe noire et épaisse, des cheveux touffus et ramassés en tas, des pieds sans chaussures et sans rien sur les jambes. Ses cuisses étaient recouvertes de choses qui semblaient être de velours fauve, mais si déchirées qu'en maints endroits, elles laissaient voir la chair. Il avait la tête découverte, et il eut beau passer aussi rapidement qu'on l'a dit, tous ces détails furent observés et notés par le chevalier de la triste figure, le surnom donc de Don Quichotte. C'est cette apparition d'un homme sauvage, nu, haillon, sautant de rocher en rocher, qui est l'entrée de la figure de Cardenio dans l'histoire. Dans ce même chapitre, il est ensuite décrit par les chevriers qui l'ont recueilli et qui l'ont entendu leur demander où est-ce qu'ils pourraient faire la retraite la plus absolue dans la solitude la plus extrême. Et les rencontres qu'ils ont pu avoir ensuite avec lui et le moment clé de la fin du chapitre 23, lorsque, cette fois-ci, Don Quichotte non seulement voit, aperçoit Cardenio, mais le rencontre. À cet instant précis, apparu dans une gorge de la montagne qui s'ouvrait, et où ils étaient, c'est-à-dire Sancho et Don Quichotte et les chevriers, le jeune homme qu'il cherchait et qui venait en marmonnant des paroles qui ne pouvaient être entendues de près, et moins encore qu'il ne pouvait être entendu de près, et moins encore de loin. Son vêtement était tel qu'il a été dépeint. Et si ce n'est que lorsqu'il se fut approché, Don Quichotte vit que le grand collet tout déchiré qu'il portait était un collet d'ambre, par où il acheva de se convaincre que qui portait de tels habits ne pouvait être d'humble condition. À peine arrivé, le jeune homme les salua d'une voix discordante et rauque, mais fort poliment. Don Quichotte lui rendit son salut avec autant de civilité, et descendant de Rocinante, il alla d'un air avenant et de bonne grâce lui donner l'accolade, et le tint longtemps serré dans ses bras, comme s'il l'avait connu de longue date. L'autre, que nous pourrons appeler le déguenillé à la piètre figure, tout comme nous avons baptisé Don Quichotte le chevalier de la triste figure, après s'être laissé donner l'embrassade, écarta Don Quichotte un peu de lui et lui posant les mains sur les épaules, se mit à le regarder comme pour voir s'il le reconnaissait. Et sans doute n'était-il pas moins étonné de contempler l'aspect, l'allure et les armes de Don Quichotte que Don Quichotte ne l'était de le voir. Et donc, entre ici la figure, et j'avais suggéré le fait que d'emblée, il y a comme l'idée que Cardenio et Don Quichotte sont des doubles. L'un et l'autre font une retraite dans la Sierra Morena. Don Quichotte, cette phrase très mystérieuse, comme s'il l'avait connu de longue date, alors qu'en fait, évidemment, il ne l'a jamais rencontré, mais comme s'il y avait immédiatement la rencontre d'un double qui partage ce même désir de fuir le monde tel qu'il est, Cardenio, parce qu'on l'apprend au fur et à mesure des chapitres, amoureux de Lucinda qu'il devait épouser, a été trahi par son ami Fernando qui a demandé la dite Lucinda en mariage, et le mariage a eu lieu, et que donc dans cette infortune, dans ce malheur, il a décidé cette retraite dans la Sierra Morena, comme Don Quichotte, imaginant la relation avec la femme de ses pensées, c'est Dulcinea, s'est retiré lui aussi dans la Sierra Morena. Et donc, du coup, il y a là, c'est un argument intéressant parce que pour ceux qui mettent sur le théâtre l'histoire de Cardenio, est-ce que la perception de cette dualité, de ce double Cardenio-Don Quichotte est suffisamment forte pour les faire entrer Don Quichotte dans l'histoire de Cardenio, un peu à l'envers de ce qui est dans l'histoire, l'entrée de Cardenio dans les aventures ou mésaventures de Don Quichotte. Alors la question, pourquoi en 1613, une pièce de théâtre représentée à la cour s'empare de Cardenio, donc se réfère implicitement à Don Quichotte. On ne peut pas évidemment séparer cela de la traduction de 1612 de Thomas Shelton, qui donne une sorte de contemporanéité, de pré-savoir, pour ceux qui connaissent pas l'espagnol, de ce qu'on va leur montrer sur la scène, même si il est difficile d'établir une chronologie entre la date de publication, c'est-à-dire de circulation de la traduction de Shelton imprimée, et la date de représentation à la cour. Mais disons qu'il y a un moment cervantin qui se lie dans ces deux éléments. Alors on peut s'arrêter un moment sur cette traduction de Thomas Shelton. Je pense que l'histoire des traductions est une forme très importante à la fois pour ce qui avait pu nous retenir dans un cours, c'est-à-dire la géographie littéraire, les cartographies des circulations, des transmissions, des présences, et cartographier ou donner la chronologie des traductions d'une œuvre est un élément important dans cette géographie littéraire, contrastant par exemple les œuvres qui restent enserrées dans un horizon géographique qui est celui de leur langue ou de leur origine, et d'autres qui connaissent dans la très longue durée et dans la multiplicité des langues une projection universelle, ce qui est évidemment le cas de Don Quichotte. L'inspiration qui est donnée par un livre de Franco Moretti, l'Atlas du roman européen au XIXe siècle, où on peut ajouter deux choses. D'une part, que cette cartographie des traductions doit prendre en compte aussi la cartographie des retraductions, un phénomène très important, et de comprendre comment, dans une langue, à un moment donné, on décide de retraduire un livre qui a déjà été traduit. Et les raisons peuvent être variées, il y a toutes de l'intérêt, c'est-à-dire la conscience que la langue de la traduction du pays traducteur s'est modifiée, s'est modernisée, qu'il faut donc ajuster ce nouvel état de la langue dans la traduction de l'œuvre. C'est ce que, par exemple, ce qui se passe pour le Don Quichotte, traduction 1612 et retraduction dans les années 1670, parce que l'état de la langue anglaise s'est modifié, c'est au moins ce que dit le second traducteur, John Phillips. Ou bien l'idée de traduire sur l'original, ce qui n'était pas une pratique habituelle. Alors, beaucoup de livres sont traduits à partir d'une traduction. Le français jouant d'ailleurs un rôle de médiateur souvent pour ces traductions de l'espagnol. Et donc, du coup, on voit qu'il y a là un problème intéressant, mais qui rend plus complexe la cartographie, puisqu'il faut suivre les retraductions et pas simplement une carte de première apparition dans les différentes langues. Et la deuxième élément qui me paraît important, et on l'a déjà rencontré ici, on le rencontre maintenant, c'est le fait que la géographie d'une œuvre n'est pas seulement la géographie de ses textes imprimés, que ce soit les éditions en langue originale ou que ce soit les éditions des traductions et des retraductions. C'est aussi la géographie des incarnations. Le fait que l'œuvre peut être transformée en pièce de théâtre, qu'on l'a vu avec Don Quichotte, les personnages sortent des livres pour devenir dans des fêtes chevaleresques, carnavalesques ou religieuses, des personnages de chair et d'os qui participent de la réjouissance ou du cortège. Et sans oublier, effectivement, que le fait que les images des personnages ou de moments de l'intrigue peuvent accompagner le texte imprimé, mais peuvent aussi s'en émanciper. Ce qui rend encore plus complexe, évidemment, la cartographie des œuvres, c'est-à-dire la cartographie des œuvres lorsqu'elles ne sont pas des livres. Donc on est avec cet intérêt, et l'intérêt pour la traduction de Shelton peut aussi être lié dans une perspective plus historienne, c'est-à-dire une perspective des circulations, des connexions, terme à la mode, entre des cultures ou des littératures. Le titre est intéressant. « The History of the Valorous and Witty Knight-Errant, Don Quixote of the Mancha ». Donc, l'histoire du valeureux et plein d'esprit, chevalier errant, Don Quichotte de la Manche, traduit de l'espagnol, Londres, William Stansby for Edward Blunt and William Barrett, 1612. Cette première traduction est un livre quarto, et on voit tout de suite, en commentant les titres, la distance entre 1612 et 1605. Vous vous souvenez peut-être du titre du Quichotte en 1605, « El ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha ». Et la distance est d'abord d'introduire le terme de « history », l'histoire, c'est-à-dire de jouer le jeu de la fiction qui se donne comme une « historia » dans le texte de Cervantes, c'est-à-dire de mettre au titre finalement un des dispositifs du texte, qui est d'essayer, avec la complicité du lecteur, de lui faire croire que ce qui est raconté, ce sont des aventures réelles d'un personnage réel qui s'appelait Alonso Quijano et qui a décidé de prendre un nom de chevalerie, Don Quichotte de la Manche. Et donc, du coup, de renforcer cet aspect avec l'utilisation du mot « the history ». Ensuite, les deux adjectifs qui caractérisent Don Quichotte, dans le cas espagnol, il n'y en a qu'un, ingenioso. Et ingenioso, c'était évidemment un jeu ironique, mais que découvrait le lecteur qui n'avait jamais entendu parler de Don Quichotte au fil du récit. c'est-à-dire le fait que le ingenio, c'est une capacité intellectuelle de l'entendement, du discernement. Et donc, ingenioso, c'est un personnage qui, un peu comme le discreto, a une capacité du jugement, du discernement. Et donc, il y a un effet de surprise pour le lecteur, puisque s'il a lu la page de titre, ingenioso, il voit que cet effet de discernement est évidemment un effet tout à fait inversé, puisque c'est l'effet, apparemment, en première instance, d'aveuglement de Don Quichotte, qui croit que le monde des livres qu'il a lus est le monde réel et que c'est simplement parce que les mauvais génies ont donné des apparences à ce monde réel autre que celui-ci n'est pas immédiatement visible. Et c'est pourquoi les moulins à vent sont des géants, même si les ensorceleurs ou les génies ont transformé ces géants en moulins à vent. Le fait de la traduction anglaise ajoute valorous, brave, courageux, et emploie le terme de witty pour traduire ingenioso, sans doute gardant le même aspect de l'ironie et du jugement, mais qui pour un certain nombre des lecteurs était déjà connu. C'est-à-dire que la traduction se place dans un moment où, à l'inverse de 1604-1605, où les lecteurs découvrent un livre comme ils n'en ont jamais vu, en 1612, les lecteurs, même s'ils ne savent pas l'espagnol, en anglais, découvrent quelque chose dont ils ont déjà entendu parler, dont ils ont déjà une connaissance et connaissent que ce terme witty ne va pas produire une surprise, mais va produire un sourire, le fait que ce discernement est celui d'un personnage qui erre ou qui confond le monde réel et le monde de la fiction. Et la même chose avec Knight Errant, le chevalier errant. Dans le titre espagnol, Hidalgo Don Quixote de la Mancha, ce qui produisait un effet de surprise, mais on ne sait pas, en lisant la page de titre, que l'Hidalgo est un chevalier errant, on va décider qu'il est un chevalier errant. L'effet de surprise était plutôt lié au fait que, normalement, le titre de Don, qui appartient à la grande aristocratie, ne pouvait pas être accolé avec celui de Hidalgo. Et donc, il y avait là un phénomène un peu déstabilisant pour le lecteur de la page de titre de 1605. Pourquoi cet Hidalgo, donc un petit noble de province, marginalisé à la fois par les évolutions économiques ou par la construction de l'État administratif et bureaucratique, est en même temps Don Quixote de la Mancha? La présence de Knight Errant est presque comme un index. On rappelle au lecteur que ce qu'il va en lire, c'est les aventures dont il a déjà entendu parler, qu'il a peut-être déjà rencontré dans des allusions ou au théâtre, d'un chevalier errant. On voit donc qu'il y a là un commentaire toujours à faire en fonction de quelque chose qui n'est pas dans l'objet même du commentaire, mais qui est d'essayer de reconstruire ce que pouvait être la perception, la compréhension, les références déjà présentes face au titre. Et on voit que le titre, là, déploie un pressavoir du texte pour ceux qui l'ont déjà, et pour d'autres, évidemment, donne déjà un certain nombre d'indications plus directes sur le contenu. L'effet de surprise est moins fort qu'avec le titre de 1605. Et ce trait d'un pré-savoir est renforcé dans les exemplaires mêmes, tels qu'on peut souvent les voir. Si vous regardez dans la banque de données des textes anglais électroniques, des textes anglais des 16e, 17e, qui s'appelle Early English Books, vous voyez que pour l'édition de 1612 de Thomas Shelton, la première image qui apparaît, c'est un frontispice dans lequel on voit Don Quichotte et Sancho et le moulin à vent. Et il y a une légende de ce frontispice, Don Quixote, The History of Don Quixote, The First Part. Évidemment, c'est tout à fait bizarre, puisque en 1612, même pas Cervantes pouvait imaginer qu'il y aurait une seconde partie du Don Quichotte. Et donc, il s'agit d'une image qui avait été utilisée par l'éditeur Blount pour la publication de la seconde partie de Don Quichotte, en anglais 1620, image qui copiait une image française de 1618, première illustration montrant plus ou moins de manière réaliste Don Quichotte et Sancho, et qu'il a ajouté, ou qu'on a ajouté a posteriori, à l'édition de 1612 de la traduction en indiquant « the first part ». Mais évidemment, c'est un artefact qui a été construit rétrospectivement, peut-être par Blount pour des exemplaires qui lui restaient, ou peut-être par des libraires ou des possesseurs du texte qui, enfin en particulier, qui ont pu avoir cette gravure qu'il rencontrait dans un autre exemplaire qui circulait. Mais on voit qu'il faut être très méticuleux et très attentif à la composition typographique puisqu'elle est l'objet de possibles manipulations. Et par exemple, la présence d'images qui n'étaient pas dans l'édition originelle, ou à l'inverse, puisque le commerce de librairie l'a souvent fait, la suppression d'images en hors-texte ou en frontispice qui devenait un objet d'un marché propre et qui, donc, du coup, donnait l'impression que le livre n'avait pas été illustré. J'avais rencontré ça pour un texte qu'on avait discuté il y a quelques années, Las Casas, l'édition anglaise de la 1656 de la destruction des Indes, a un petit dépliant dans lequel il y a quatre images qui reprennent plus ou moins les images de l'édition de 1598, qui sont les premières illustrations des cruautés espagnoles dans le Nouveau Monde. Et dans beaucoup d'exemplaires, parfaitement reliés, l'image n'apparaît plus, comme si elle avait été découpée, enfin le hors-texte n'apparaît plus, comme s'il avait été découpé, oublié, perdu ou vendu. Donc on a là, dans le titre, cette réflexion sur comment le titre peut jouer sur un horizon déjà constitué. Cette page de titre est aussi intéressante parce qu'elle donne des indications sur l'imprimeur et sur le libraire. Dans le cas anglais, il y a la distinction, tous les deux appartiennent à la corporation, à la communauté de métiers des stationers. Mais le plus souvent, un libraire éditeur n'est pas imprimeur, mais il prend en charge les frais d'une édition et donc il demande à un imprimeur d'imprimer pour lui, en le rémunérant, les exemplaires du livre qu'il veut éditer. Et là, les deux sont importants. William Stansby était un imprimeur renommé. En 1616, il va être l'imprimeur du Ben Jonson, The Works of Ben Jonson. Et grâce à un travail bibliographique extrêmement méticuleux, David Gantz a pu rentrer dans la chronologie du processus de publication, montrer que sans doute l'impression de cette traduction avait commencé en février 1611, mais qu'elle avait été interrompue par d'autres travaux plus urgents pour l'imprimeur, et donc c'était achevé au printemps de 1612. Ce qui est intéressant, puisque ça veut dire que une pièce qui aurait été composée dans la deuxième moitié de 1612 pouvait disposer d'un exemplaire de la traduction de Shelton, ce qui laisse supposer que notre cardenau ou cardenat pouvait entrer dans ce cas. Le libraire éditeur, lui, est particulièrement intéressant, Edward Blount, parce que c'est une figure majeure de la librairie anglaise du début du XVIIe siècle, dans la mesure où il s'est spécialisé dans les traductions. Et bien sûr, il y a publié quelques auteurs anglais, mais la caractéristique de son catalogue, ouvert d'ailleurs en 1598, enfin, ce n'est pas le premier livre qu'il publie, mais en 1588, il publie de Florio le dictionnaire italien-anglais « A World of Words », un monde de mots, très joli titre, et qui introduit à cette dimension, d'abord d'une collaboration avec Florio, parce qu'en 1603, il publie la traduction des Essais de Montaigne, qui a été établie par le même Florio. Et entre parenthèses, d'ailleurs, dans les accès souvent de montrer que Shakespeare n'est pas Shakespeare, donc de trouver qui était Shakespeare, récemment, un Canadien a identifié Shakespeare comme étant Florio. Donc c'est à Florio qu'on attribue la totalité, dans cette nouvelle perspective, des œuvres de Shakespeare. Je pense que ces attributions qui ne repose sur rien. Elle repose en fait sur un préjugé, dans un sens. C'est l'idée que les œuvres de Shakespeare sont si nourries de références théologiques, historiques, ou d'une poésie sublime, qu'elles ne peuvent pas avoir été produites par un fils de Gantier de Stratford-upon-Avon, dont on sait qu'il a fait des études dans une grammar school, mais qui n'est jamais allé à l'université. Et donc, du coup, c'est le mécanisme de ces attributions pour trouver qui est Shakespeare, si ce n'est pas Shakespeare, est toujours un mécanisme d'attribution soit à une figure aristocratique, soit à une figure d'érudit, qui devient plus plausible pour expliquer l'étendue des savoirs ou la perfection des beautés qui se trouvent dans l'œuvre shakespearienne. Et donc, on a pu avoir comme ça toute une série, Bacon, par exemple, maintenant Fleuriot. Ça serait toute une discussion, mais il y a des phénomènes, des faits historiques absolus qui s'opposent à cela. C'est le fait que dès 1598, il y a des textes qui sont sur Shakespeare et qui ne dissocient pas le Shakespeare qui a réellement existé et qui était un acteur et sans doute un propriétaire de la troupe des hommes du roi, et le même Shakespeare auquel on attribue les pièces de théâtre ou les poèmes. Alors que toute opération de créer un Shakespeare qui n'était pas Shakespeare suppose une radicale différence entre l'auteur des textes et le Shakespeare historique, acteur et propriétaire de la troupe, ce qu'aucun document à partir de 1598 ne permet de soutenir. Donc je pense que c'est des jeux fascinants en eux-mêmes, intéressants, mais qui, évidemment, ne renvoient à aucune réalité historique et qui peuvent consumer de much ado about nothing. Donc, la carrière éditoriale de Blount est jalonnée par des traductions. En 1604, la traduction d'un livre du père Acosta, Historia Natural y Moral de las Indias, donc une ouverture sur la conquête, la colonisation, le monde américain. En 1607, il traduit l'Arte Aulica de Ducci, enfin il traduit, il publie, et finalement en 1608, avant 1612 Cervantes, Don Quichotte, de la sagesse de Charon, un livre inscrit un peu dans la postérité de Montaigne, on voit une ouverture des horizons du côté d'une pensée ou d'une écriture philosophique qui n'est pas nécessairement la plus orthodoxe, du côté de Nouveau Monde et du côté de l'Italie et de l'italien avec ses dictionnaires. Ensuite, il y a, après la publication, mais ce n'est pas important pour aujourd'hui, le catalogue qui se enrichit de manière considérable avec d'autres traductions, par exemple celle du Guzman de Alfarache. Donc la figure de Blount comme cet éditeur, ce libraire-éditeur ouvert à la nouveauté qui va être aussi, en 1623, l'un des membres du consortium qui publiera le folio de Shakespeare. Et donc, dans Blount, on trouve une de ces rencontres que nous cherchons à travers ces exposés. C'est-à-dire, c'est ce même libraire-éditeur qui a publié seul la traduction de Shelton du Quichotte et qui a participé, avec trois de ses confrères, à la publication du folio de Shakespeare de 1623. Le titre de la traduction de Shelton a été enregistré par Blount dans les registres de la Stationer's Company le 19 janvier 1611. Et d'ailleurs sous un autre titre, parce qu'on est dans un monde où il n'y a pas de copyright, mais existe le writing copy, c'est-à-dire si un libraire ou un imprimeur éditeur possède un manuscrit, que l'on appelle copy, il va le faire enregistrer par la corporation des libraires imprimeurs, c'est ce qu'on appelle to enter le titre, et du coup, ça veut dire que cela bloque la possibilité pour un autre de ses confrères de publier le même texte. C'est comme s'il était considéré un droit de propriété patrimoniale, imprescriptible, du libraire ou de l'imprimeur-éditeur, mais en, disons, ce sont surtout des libraires en Angleterre au XVIIe, du libraire-imprimeur, sur, du libraire-éditeur sur ce titre. C'est une garantie, finalement, parfois violée, et il y a des procès devant la Stationer's Company, mais normalement, c'est un équivalent d'un copyright dans les mains du libraire. Et dans ces registres qui ont été conservés, on peut voir la date où apparaissent l'œuvre, et on peut supposer qu'elle est terminée, puisqu'il faut porter montre le manuscrit même, la copie. Et d'autre part, on peut voir la variation dans les titres. Ici, la traduction avait été enregistrée comme « The Delightful History of the Witty Knight Don Quixote ». Donc pas de Knight Errant ou Errant Knight, et Delightful, le basculement de l'histoire directement du côté du plaisir, du divertissement, la délicieuse, la plaisante histoire du chevalier avisé Don Quichotte. Donc tout de suite un registre qui était immédiatement celui du divertissement. Le traducteur est très intéressant, Thomas Shelton, et dans la dédicace à son pas protecteur ou celui qu'il espère être son protecteur, il y a là aussi un petit récit de publication. Et on a toujours intérêt à les lire, puisque c'est là où il dit qu'il avait terminé il y a 5 ou 6 ans auparavant, ce qui nous mène donc en 1607 ou 1608, la traduction de Don Quichotte, et qu'il l'avait faite en 40 jours. Ça, on n'est pas obligé de le croire, mais le fait de cela. Et pourquoi l'avait-il fait ? Pour un ami, a very dear friend, qui était désireux de understand the subject, de comprendre le thème. Donc une traduction qui est placée immédiatement dans un lien de sociabilité avec son très cher ami, qui ne lit pas l'espagnol, et qui donc veut connaître le sujet, et donc comme un service en quelque sorte, comme une forme d'amitié, Shelton traduit pour lui Don Quichotte. Et dit-il ensuite, on retrouve le même topos que dans le Night of the Burning Pestle, la traduction il l'a oubliée, elle a été neglected in a corner, il l'a mis dans un coin, il s'en est plus occupé, et elle a été so little regarded by me, ça veut dire si peu appréciée. Et ça, c'est un thème très important, c'est le thème du statut de la traduction. Et la traduction au XVIe, XVIIe siècle est paradoxale. D'un côté, c'est une pratique d'écriture qui est considérée comme peu digne, ou déprécié, dans la mesure où il y a l'idée que traduire, c'est copier. Et donc, du coup, par exemple, en espagnol, trasladar est le même verbe pour copier un manuscrit et pour traduire un texte. Donc, on est du côté d'une pratique qui, bien sûr, on est dans une économie de l'écriture où il n'y a pas l'idée de l'originalité romantique, mais néanmoins où existe l'idée que dans l'imitation, on doit pouvoir produire de l'invention. Et c'est cela qui peut distinguer. Et souvent, on a tort d'appliquer rétrospectivement des catégories qui n'ont absolument rien à voir avec ce régime de production des textes. J'ai essayé de le dire plusieurs fois, par exemple, cette catégorie de l'originalité qui fonde la création esthétique sur l'expérience du sujet. Ce modèle-là ne fonctionne pas dans le XVIe, XVIIe siècle. Ce qui ne veut pas dire que tout est équivalent, mais ce qui veut dire que les histoires appartiennent à tout le monde, que les lieux communs sont sublimes et doivent être réemployés, et que les propriétés n'est pas celle de l'auteur, mais celle du libraire, et que si l'on a un peu jugé de la capacité d'invention, c'est à l'intérieur de ces réemplois ou de ces imitations. Et donc, du coup, la traduction, qui dénote peu d'invention, si elle est fidèle, est au plus bas de cette estime littéraire. Et on trouverait cette idée du « so little regarded by me », il n'est pas lui-même particulièrement fier d'avoir traduit Don Quichotte, et il oublie dans un coin cette traduction. On en trouverait beaucoup d'échos, à commencer dans Don Quichotte lui-même, puisque dans le chapitre 62 de la seconde partie, Don Quichotte visite une imprimerie à Barcelone. Il y rencontre un auteur, mais qui est un traducteur, qui traduit un livre de l'italien, dont le titre est Les Bagatelles. Et commence un dialogue entre Don Quichotte et cet auteur-traducteur, et où réapparaît ce dédain, puisque Don Quichotte lui explique que traduire ne traduit aucune ou n'exprime aucune forme de génie particulier, et que de toute façon, sauf lorsqu'il s'agit des traductions des langues reines, le grec et le latin, les traductions sont inutiles, sont des pures copies, et il emploie le mot trasladar pour marquer cela, copier, traduire, c'est la même chose. Et en plus, le produit est toujours insatisfaisant puisque c'est comme regarder les tapisseries des Flandres à l'envers. On voit les fils, mais on ne voit pas les motifs. Donc, il y a un dédain de la traduction qu'on trouverait dans Don Quichotte lui-même. Alors, je disais pourquoi paradoxal ? Parce qu'en même temps, les traducteurs sont les premiers écrivains professionnels, on pourrait dire, ou professionnalisés. Et par exemple, dans un marché si important qu'était le marché des traductions des romans de chevalerie, les vrais, pas Don Quichotte, les romans de chevalerie espagnols, on a des contrats entre traducteurs et libraires-éditeurs où l'on voit premièrement que les traducteurs sont systématiquement payés en argent, alors que très souvent dans d'autres auteurs, le libraire-éditeur leur donne une série d'exemplaires, parfois faisant relier très somptueusement certains de ces exemplaires, mais ce qui veut dire que le paiement est différé. Ces exemplaires sont offerts aux protecteurs dans le cadre des relations de mécénat ou de clientèle, et bien sûr, l'auteur peut en tirer un profit, une place, un emploi, une gratification, mais pas sur le marché du livre. Les traducteurs, eux, sont payés en monnaie, directement en argent. Et deuxièmement, c'est les premiers à recevoir des avances de traduction, des avances sur ce paiement. Dans tous les autres cas, s'il existait, en argent ou en exemplaire, il est une fois pour toutes, et au moment de la remise du manuscrit. Dans le cas des traducteurs, on les paye pour des parties des œuvres qu'ils sont encore en train de traduire ou qu'ils vont traduire. Donc il s'est inscrit avec la traduction, les traducteurs et la traduction, une forme de professionnalisation d'écriture et l'invention de nouveaux dispositifs dans les contrats entre auteur-traducteur et libraire-éditeur. Et c'est là le paradoxe, mais il n'est qu'en apparence, puisqu'effectivement, offrir une traduction n'est pas comme offrir en dédicace une œuvre dont on est soi-même l'auteur, ou l'éditeur au sens d'avoir établi le texte d'un ancien. Et donc, du coup, la rémunération, souvent forte, en argent, traduit, renforce cette idée d'une activité d'écriture qui n'est pas parmi les plus nobles, mais qui est entrée dans le marché de l'écrit. Ça peut expliquer cette réflexion, « So little regarded by me ». Et du coup, il dit, il ne l'a ni révisé, ni corrigé. Bon. Mais, il ajoute, d'autres amis lui ont demandé de la publier pour qu'elle soit plus accessible. Un peu plus tard, déjà, tout ce que j'ai essayé de décrire, le bruit autour de Don Quichotte est suffisamment fort pour que certains désirent que le livre, qui est un manuscrit, devienne un imprimé. Et il dit, j'étais content de... I was content to let it come to light. J'étais content de le laisser apparaître à la lumière, qui est une des métaphores employées pour publier. Sacar a la luz en espagnol. Mais, à nouveau, signe d'un certain dédain, à la condition que l'un ou l'autre de ses amis s'occupe de réviser le texte. Lui, disait-il, avait d'autres affaires, many affairs, qui l'empêchaient de se vouer à cette tâche et qu'il avait demandé que l'un ou l'autre de ceux qui voulaient maintenant avoir une édition du Don Quichotte révise le texte. Le mot employé, c'est to peruse. Et to peruse, c'est lire avec beaucoup d'attention et corrige les erreurs qui lui auraient à lui échappé. Et comme dans beaucoup de ces récits de publication, malheureusement, le travail n'est pas fait et l'auteur, ici le traducteur, est obligé de reconnaître que le livre est paru, est publié et n'a pas été révisé. Et il dit, je comprends maintenant que l'imprimeur vous a présenté, c'est au dédicataire qu'il dit ça, vous a présenté un exemplaire de ce livre sans qu'il ait été ni perused, ni amended, ni contrôlé, ni corrigé. Et Shelton en est dégoûté, et dégoûté. Parce que, du coup, le livre devient indigne de celui à qui il l'offre, c'est-à-dire Lord Walden, à qui il le dédie. Il est indigne parce que sa matérialité est indigne. Le texte n'a pas été corrigé, il y a des erreurs, il y a choses qui ont été laissées par inadvertance par lui, Shelton, comme traducteur. Et en même temps, il y a aussi l'idée qu'il est indigne parce que sa matière, son contenu, n'est pas des plus dignes. Et il lui promet, à la fin de la dédicace, de lui offrir un jour quelque chose qui soit « some worthier subject », un sujet plus digne d'estime. Donc on voit que indignité de la traduction comme telle, indignité d'une forme matérielle qui n'a pas été suffisamment corrigée, et une certaine, non pas indignité, mais enfin, en tout cas, un certain genre qui, dans ce cas-là, est ce livre de divertissement, peut être considéré comme un présent qui pourrait ne pas être à la hauteur de Lord Walden et qui est le dédicataire du livre. Thomas Shelton, qui écrit cette dédicace, un personnage intéressant parce que il est le fils d'un marchand catholique de Dublin qui a persévéré dans le catholicisme puisqu'il a refusé de prêter le serment d'allégeance, ce qu'on appelle le Oath of Supremacy, le serment d'allégeance qui fait reconnaître le roi d'Angleterre comme le chef de l'Église d'Angleterre. Et c'était un serment qui remonte au début des années 1530, mais qui, en 1558, avait été par Élisabeth réaffirmé et comme nécessaire. Et le père de Shelton a refusé ce serment, et l'on sait qu'il a été plus tard emprisonné pour sa foi catholique et a été 8 ans en prison et mort en prison. Plus grave encore, dans un sens, pour le frère de Thomas Shelton, John Shelton, était un catholique encore plus engagé peut-être que le père, puisqu'il s'était, en 1598, a fait membre d'une sorte de tentative de rébellion à Dublin, et dont la première cible était le Dublin Castle, c'est-à-dire le château où étaient installés les officiers de la reine d'Angleterre. Et donc, du coup, ce Shelton catholique, avec ses frères et pères dans cette situation, et le résultat, c'est que John Shelton a été pendu après cette tentative de rébellion. Shelton a fui en Espagne, puis dans les Flandres, donc dans sous terre catholique, et on le retrouve à Douai en 1604, avec l'hypothèse qu'il est peut-être un des professeurs du collège jésuite de Douai, qui recevait les fils des familles nobles anglaises catholiques et qui formait aussi un certain nombre de missionnaires catholiques qui devaient être envoyés en Angleterre. Ceci aussi est d'un autre fil qui nous fait lier Cervantes, Shelton et, dans un certain sens, Shakespeare, puisque j'espère avoir le temps d'en parler. Il a été découvert l'année dernière dans la bibliothèque municipale ou de la communauté de ville, de la communauté urbaine de Douai, un exemplaire du folio de 1623. Et qui a, évidemment, bon, c'est pas un livre rare, il y en a 80 copies, exemplaires à la Folger Library à Washington, mais trouver de nouveaux exemplaires est relativement, même excessivement rare. Et donc ce folio de 1623, trouvé à Douai, appartenant au collège jésuite, a créé évidemment tout un grand intérêt, puisque ça veut dire qu'il y avait une lecture catholique des pièces de Shakespeare. Et que donc, du coup, ce folio ouvrait la question de pourquoi dans des collèges jésuites, parce que Douai était un second exemple, il y avait déjà eu la découverte du second folio, la seconde édition donc, de collège à Valladolid, des jésuites espagnols, quel était le statut, l'importance qu'on donnait à ce texte anglais et sans rien de catholique, dans lequel il y a évidemment même beaucoup de mise en scène de membres de l'Église dans beaucoup de pièces. Par exemple, Measure for Measure, mesure pour mesure. Quel était ce statut dans le collège jésuite? Est-ce qu'il pouvait rouvrir aussi la question sur la religion de Shakespeare et la question de savoir s'il avait eu ou pas des sympathies catholiques, alors qu'on sait que son père, oui, avait pu avoir une foi catholique. Mais enfin, c'est un trait par hasard d'une rencontre à Douai entre le corpus, sinon le corps de Shakespeare en 1623, présent en collège, et la présence de Thomas Shelton beaucoup plus tôt dans le siècle dans ce même collège. Ce qui renforce encore la catholicité de Thomas Shelton, c'est un poème de louange qu'il avait écrit pour un autre livre et pour un de ses amis, qui est Richard Verstegan. Or, ce Richard Verstegan est un auteur très, très catholique qui avait publié en 1587 en latin, puis 88 en français, un livre appelé « Le théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps ». Et donc, dénonçant, montrant, parce qu'il y a une illustration importante, les massacres commis par les protestants en Angleterre, en France et dans les Pays-Bas. Et donc c'est un engagement de Verstegan très puissant, et de là la rencontre avec Thomas Shelton qui, comme on le fait dans les livres du XVIe et XVIIe siècle, a écrit un poème de louange pour un autre texte de Verstegan plus tardif, donc en 1605. Et certains ont pensé que le « Dear Friend » pour lequel Shelton a traduit Cervantes était peut-être Verstegan. D'autres ont évoqué un autre réfugié catholique anglais dans les Flandres qui est Thomas Lodge, un autre dramaturge. Le dédicataire, pour terminer, Theophilus Howard, le baron de Walden, est tout intéressant, peut-être avait un lien de parenté avec Shelton, puisqu'à un moment donné, lorsqu'il promet un texte qui serait quand même plus digne de respect que Don Quichotte, il fait allusion, il emploie le mot « the parent will », comme s'il y avait, il établissait ce lien de parenté, ce qui pourrait expliquer cette dédicace, parce que Walden n'est pas lié au milieu catholique. C'est un courtisan important de Jacques Ier. Il a fait des études de droit, il est rentré au Parlement, il est à la cour. Le lien avec le catholicisme, c'est qu'un de ses oncles, Northampton, avait maintenu une famille catholique. Bon, il n'a pas de lien particulier, en même temps, il n'a pas d'hostilité avouée, qui pourrait expliquer pourquoi Shelton lui fait cette dédicace, mais ça devient presque plus vraisemblable s'il y a entre eux, malgré la différence religieuse, un lien même un peu lointain de parenté. Dernière chose, Translated of the Spanish, la question qu'on peut poser, c'est à partir de quel Don Quichotte Shelton a traduit le texte. Et ici, on peut trouver des indications sûres qui permettent de penser que, et ça peut aller de soi s'il était réfugié aux Pays-Bas espagnols, l'édition de Bruxelles de 1607 de Don Quichotte. Il faut savoir que Don Quichotte a eu 5 éditions en 1605. Il y a la première et la deuxième de Madrid. Il y a deux éditions au Portugal et à Lisbonne, mais en espagnol, bien sûr. Et il y a une édition à Valence. Et ensuite, il y a l'édition de 1607 à Bruxelles. C'est beaucoup, 5 éditions dans la même année, ce qui prouvait aussi l'effet de connaissance et d'intérêt, d'engouement pour un livre assez différent de tous ceux qui caractérisaient les livres d'imagination. et les éditions à Valence et à Lisbonne s'explique pour une raison tout à fait simple, c'est que le privilège qui avait été demandé par Cervantes portait sur la Castille. Or, la monarchie espagnole est une monarchie composite. Le roi de Castille, d'Aragon et de Portugal. Mais chacune des deux entités, Aragon auquel appartient Valence et Portugal, n'étaient pas liées par des privilèges donnés en Castille. Et donc, ils ont pu imprimer librement les deux éditeurs Lisboète et l'éditeur de Valence, une édition du livre, ce qui fait que c'est pour cela que dans la seconde édition, Cervantes ou son libraire éditeur Robles ont pris la précaution de demander un privilège qui s'étendait non seulement à la Castille, mais aussi à l'Aragon et au Portugal, puisque le Portugal appartient à la couronne depuis 1580. Et donc, c'est cette édition de Roger Velpius de 1607 à Bruxelles qui sert de texte pour être traduit, et on peut le voir avec un détail qui est tout à fait intéressant, qui est le fait que, je abrège cette petite histoire, c'est le fait que dans l'édition première, celle imprimée en 1604, datée 1605, Madrid, Cervantes avait commis, entre autres, une négligence qui était de dire qu'au chapitre 25, Sancho avait perdu son âne qui lui avait été volé ou qui avait disparu, et l'âne réapparaissait au chapitre 46 sans aucune explication. Et donc, du coup, la désinvolture de Cervantes avait été l'objet immédiatement de la critique, en particulier de ses amis qui étaient regroupés autour de ses ennemis regroupés autour de Lope de Vega. Et donc, dans la deuxième édition de Madrid, Cervantes décide d'éclairer cette affaire. Donc, il écrit deux petites variantes, deux paragraphes. Un paragraphe pour raconter comment l'âne a été volé à Sancho, et il a été volé par un des galériens qu'avait imprudemment libéré Don Quichotte, Ginés de Pasamonte. Et il raconte comment l'âne a été récupéré par Sancho, qui, sur les routes de la Sierra Morena, aperçoit Ginés de Pasamonte avec son âne, le met en déroute et récupère son âne. Et donc, du coup, la première interpolation a été introduite au chapitre 23, et la deuxième, elle a été introduite au chapitre 30. Mais, à la suite de bévues dont on ne sait si c'est l'imprécision des indications données par Cervantes ou bien une erreur dans l'atelier qui a été commise, l'âne qui était volé au chapitre 23 restait présent dans la fin du chapitre et au début du chapitre 25, c'est-à-dire que Sancho était juché sur un âne qui normalement avait disparu. Et cette deuxième confusion, après la première inadvertance, n'a fait que renforcer l'idée du manque de soin de Cervantes par rapport à son objet. Et ce que l'on voit, c'est que l'édition de Bruxelles de 1607, un correcteur a lu avec beaucoup d'attention cela et a, utilisant l'édition de 1605, mais en gommant les erreurs, c'est-à-dire qu'une fois que l'âne a été volé, il disparaît des phrases de la fin du chapitre 23 et il disparaît de la première phrase du chapitre 25. Donc ce correcteur a établi la cohérence du récit et c'est celle-ci qui se retrouve dans Shelton. Donc il est clair qu'il y a là une preuve de l'utilisation du chapitre de l'édition de Velpius. Et Cervantes s'embarrassa encore en 1608 dans la troisième édition de Madrid et tente de donner une explication de tout cela en disant que finalement l'âne avait été volé mais qu'on n'avait pas volé les harnais ou la selle, ce qui fait que Sancho était encore chargé de ces aparejos de l'âme. Mais on voit que c'est une, ce petit détail de l'âne volée que Francisco Rico, le plus grand éditeur du Quichotte, a commenté à de multiples reprises, puisque ça permet de voir la différence en 1605, deuxième édition, 1605, première édition, puis ensuite ce que deviennent ces lignes dans les rééditions de 1608, comment est raconté par donc Sancho dans la deuxième partie en 1615 l'épisode du vol. Cela permet d'entrer à la fois dans le mode de composition du texte par Cervantes, qui est un mode assez libre, désinvolte, qui ne s'attache pas à des contradictions, à des oublis, à des omissions. Il y a une sorte de fluidité dans la composition qui, comme le dit Rico, qui ressemble plus à la parole vive que à la mise en écriture, ou du moins qui respecte cette idée que le Quichotte est autant parlé que écrit. Donc du côté du mode de composition, on voit là cette sorte de liberté que se donne pour son malheur, puisque ça se transforme en un objet de critique, Cervantes. D'un autre côté, c'est entrer dans les processus qui fait qu'un manuscrit d'auteur devient une page imprimée, et l'ensemble des intermédiaires, des opérations qui peuvent introduire de la différence, de la dissemblance, voire même de la bévue ou de l'erreur. C'est-à-dire ici la mauvaise localisation d'une interpolation, l'absence de soin d'un correcteur qui ne se rend pas compte des contradictions qu'il a laissées dans le texte, la confusion possible d'un ouvrier typographe qui ne place pas au bon endroit le texte qui lui a été donné en surcroît de sa copie qu'il est en train d'imprimer. Donc cette petite histoire de l'âne est porteuse de nombreuses leçons. On va rester là avec l'idée que 1613, nous avons une pièce qui a été donnée à la cour au moins deux fois, à Whitehall, et puis, comme on le sait, la visite de l'ambassadeur du duc de Savoie à Greenwich, qui est une pièce qui met à profit un personnage et une histoire, on peut le supposer, de Don Quichotte, qui est en synchronie avec le moment de la publication de la traduction, même si on ne doit pas nécessairement supposer que seule la publication de cette traduction avait pu inspirer ou porter une connaissance du Don Quichotte en espagnol. Mais nous avons donc à ce moment de la documentation et du récit, une pièce qui a un titre mais qui n'a pas d'auteur. Alors, qui sont-ils ? Ce serait l'objet de la semaine prochaine.